Décryptage. Clotilde Dumay.
La tendance varie, certes, d'un jour à l'autre. Une déclaration suffit pour faire basculer un espoir de paix vers un durcissement des combats sur le front. Mais malgré tout, le chef de la diplomatie américaine a dit s'attendre à une semaine cruciale concernant un éventuel cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Les États-Unis, en tout cas, mettent la pression pour y parvenir. Aujourd'hui encore, ils appellent les deux parties à faire des propositions concrètes pour mettre fin au conflit, en menaçant de quitter les négociations en l'absence de progrès. Alors cet ultimatum peut-il faire avancer les discussions? Donald Trump sera-t-il l'artisan de cette trêve 100 jours après son retour à la Maison-Blanche? Avec quel prix à payer pour Kiev, alors que Washington envisage pour l'instant un plan de paix bien plus favorable à Moscou? On en parle ce soir dans Décryptage. Et j'accueille en studio Ulrich Bouna, bonsoir.
Bonsoir.
Analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est. Vous êtes chercheur associé chez Eurocreative, également auteur de ce livre que je cite, « La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective ?» C'est aux éditions du Cygne. Alors une trêve entre Kiev et Moscou, eh bien, il doit y en avoir une à partir de la semaine prochaine, sauf qu'évidemment elle sera pour l'instant très limitée puisque le président russe a proposé un cessez-le-feu de 3 jours entre les 8 et 10 mai prochains, officiellement à l'occasion des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est la deuxième trêve suggérée par le Kremlin en moins d'un mois après celle de Pâques, qui a plus ou moins été respectée. Et d'ailleurs, ces Ukrainiens interrogés à Kiev sont assez sceptiques vis-à-vis de cette nouvelle proposition faite en début de semaine, donc par Vladimir Poutine.
Personne ne croit à ces paroles, c'est du délire. Il n'y aura aucun cessez-le-feu. Ils ont bombardé, ils continueront de bombarder, car ils veulent s'emparer de toute l'Ukraine. Il n'y aura pas de trêve, aucun cessez-le-feu annoncé n'a fonctionné, aucun.
Je ne lui fais absolument pas confiance. Si j'ai appris quelque chose dans ma vie pendant cette guerre, c'est bien cela. Il n'est pas digne de confiance. Il a brisé tant de promesses pendant sa présidence, surtout vis-à-vis de l'Ukraine. Donc le cessez-le-feu pourrait être un piège.
Voilà pour ces témoignages recueillis par Cerise Sudry-Ledu. Le président ukrainien d'ailleurs, il n'y croit pas non plus vraiment à cette trêve puisque Volodymyr Zelensky a dénoncé une tentative de manipulation de la part de Moscou. Ulrich Bouna, comment est-ce qu'il faut interpréter ces propositions de trêve côté russe?
Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'effectivement, on peut s'attendre... Il faut bien comprendre qu'on n'arrête pas une guerre comme ça du jour au lendemain, même pour un cessez-le-feu, même si la structure en Russie est extrêmement, on va dire, pyramidale. Et donc, lorsque le chef décide, les autres exécutent. Il est relativement certain qu'une trêve ne sera pas respectée sur les 1000 à 1500 kilomètres de front et qu'il y aura sans doute des combats et les deux parties se rejetteront sans doute la faute. En revanche, il est possible, effectivement, comme on l'a vu lors de la première trêve de 30 heures, que les bombardements massifs sur les grandes villes soient limités, voire inexistants de la part de la Russie, d'autant plus qu'il faut bien comprendre que cette trêve, elle vise finalement à donner des gages à Donald Trump. Or, Donald Trump s'est exprimé très récemment sur son réseau social pour dire à Vladimir stop, notamment sur les bombardements sur les grandes villes. Alors, ça peut paraître un peu grotesque dit comme ça, mais je pense que ça a quand même un impact. Il est très clair que dans ce conflit, la Russie et l'Ukraine ne veulent pas être le pays qui va supporter la conséquence et les responsabilités d'un échec éventuel d'une médiation de Donald Trump parce qu'ils ont subi les conséquences sans doute derrière. Et donc du coup, effectivement, les deux se renvoient un peu la patate chaude. Donc Vladimir Poutine a repris un peu la main en proposant cette trêve de 3 jours qui d'ailleurs, d'une certaine façon, l'arrange bien puisque ça lui assure un 9 mai tranquille à Moscou. Enfin, en tout cas, c'est comme ça aussi qu'il le voit. Et ça lui permet surtout de renvoyer la balle à Volodymyr Zelensky puisque au-delà de cette trêve de 3 jours, il a dit que de toute façon, c'était la seule et unique voie, si les Ukrainiens souhaitaient la paix, c'était d'accepter ce trêve de 3 jours et ensuite de rentrer en négociation directe avec Moscou.
Alors vous évoquiez Donald Trump, justement, lui il en a profité pour justement dire qu'il voulait une trêve, un cessez-le-feu permanent. Donald Trump, qui on l'a beaucoup dit hein, aujourd'hui sur RFI, on est à ses 100 jours de présidence. Est-ce que donc on peut s'attendre à une semaine crucial particulièrement, comme l'a dit d'ailleurs le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio?
Je pense que oui, pour deux raisons. Il est très clair que les Américains mettent le paquet pour essayer d'arracher un accord, même alors le cessez-le-feu, c'est pas la paix, mais au moins un accord de cessez-le-feu, parce que on sent bien en fait que donc voilà, il y a un momentum qui s'est créé. Il y a eu quand même 4 visites de Steve Witkoff auprès de Vladimir Poutine, donc l'émissaire spécial de Donald Trump pour à peu près toutes les crises internationales. On a eu effectivement cette rencontre Trump-Zelensky dans la basilique Saint-Pierre, qui là aussi semble avoir donné un nouveau momentum et un peu plus d'espoir au côté ukrainien. Et donc effectivement, on a le sentiment que si jamais ça doit, il doit se passer quelque chose, ça va se passer très prochainement, parce que le risque est extrêmement fort côté américain que Donald Trump se lasse de cette histoire. Je pense qu'il commence à comprendre que ce n'est pas si simple que ça, que obtenir un accord, ça va demander extrêmement d'efforts, ces efforts ne lui seraient pas forcément payants en interne aux États-Unis. Donc effectivement, s'il n'arrive pas à décrocher un accord incessamment sous peu, il est probable qu'il lâche l'affaire complètement et qu'il passe à autre chose, le nucléaire iranien, autre chose. Mais donc effectivement, si jamais il y a un accord, c'est dans les prochains jours, voire deux prochaines semaines que ça devrait se produire.
C'est clair que les États-Unis ont dit à plusieurs reprises ces derniers jours qu'ils menaçaient d'arrêter ces négociations. Si jamais c'est le cas, déjà, est-ce qu'on peut y croire? Et si jamais c'est le cas, vous semblez dire plutôt que oui, si jamais c'est le cas, est-ce que les négociations pourraient se poursuivre sans Washington?
Alors, oui, c'est très probable qu'il lâche l'affaire. Il l'a déjà fait par le passé. On se rappelle de ses négociations sur le nucléaire nord-coréen qui n'ont jamais mené à rien lors de son premier mandat. Il y a eu 3 rencontres entre Kim Jong-un et Donald Trump et puis finalement, c'est retombé un peu comme un soufflet. Donc, il est tout à fait possible, d'autant plus qu'encore une fois, l'objectif de Donald Trump, c'est un objectif essentiellement en interne des États-Unis. Donc, tout ce qu'il peut faire à l'international, c'est du bonus pour lui. Mais si ça ne mène à rien, il préfère passer à autre chose. Et par contre, effectivement, si les Américains se retirent, il y a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'effectivement, je ne pense pas qu'un autre interlocuteur dans le monde ait la capacité de mettre la pression sur Moscou et sur Kiev pour les pousser à s'asseoir à la même table. Et deuxième point, c'est-à-dire que si effectivement les Américains se retirent du jeu diplomatique, quid de l'aide américaine à l'Ukraine? Déjà d'une part, il est possible que Donald Trump décide d'arrêter toute l'aide militaire américaine, ce qui poserait un problème quand même. C'est pas que le front s'effondrerait, mais ce serait compliqué pour les Ukrainiens. Et quid de la relation entre les États-Unis et la Russie? Si malgré tout Donald Trump décide de rétablir des relations pleines et entières avec la Russie en mettant finalement l'Ukraine de côté, ça veut dire fin des sanctions américaines, ça veut dire reprise du commerce avec les États-Unis et donc quid de la position de l'Europe.
Alors, dans ce que vous dites là, il y a effectivement des petits éléments d'ailleurs qui ont déjà un petit peu fuité dans certains médias, qui ont été évoqués sur ce que les Américains prévoient pour le moment, les contours un peu de leur plan de paix entre l'Ukraine et la Russie. Des informations qui ne sont pas vraiment effectivement à l'avantage de l'Ukraine. Ce qui revient le plus, peut-être l'un des éléments les plus importants, ça serait la possibilité que les États-Unis reconnaissent juridiquement l'annexion de la Crimée par la Russie. Kiev, évidemment, s'y oppose. Qu'est-ce que ça impliquerait d'abord d'un point de vue du droit international, cette reconnaissance?
Alors, il faut bien comprendre que, donc, à date, aujourd'hui, l'annexion de la Crimée n'est reconnue que par une poignée d'États, une petite dizaine, et pas les plus recommandables, la Corée du Nord, le Bélarus, le Nicaragua, Cuba, voilà, Venezuela. Donc, effectivement, on va dire des États parias. Et donc, si les États-Unis décidaient de reconnaître cette annexion, déjà d'une part, donc ce serait enfreindre le droit international. On n'annexe pas une partie de son voisin manu militari. Deuxièmement, ça ferait basculer les États-Unis, au moins sur cette question-là, dans le camp des États parias. Et troisième point, c'est que, alors ça peut sembler peut-être un peu plus symbolique, mais le fait que ça se produise en Europe, qui est le continent qui s'est bâti normalement le plus depuis 1945 sur le droit international, qui est souvent posé un peu en exemple d'une capacité des États à discuter entre eux et à éviter d'en arriver à la guerre pour régler des problèmes, ce serait, je pense, véritablement faire tomber en fait ce qui reste de droit international. Il ne reste déjà plus grand-chose. Mais donc, effectivement, ce serait probablement le dernier coup sur le droit international et sans doute la porte ouverte à ce qu'un certain nombre d'États décident de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Après tout, ça pourrait servir d'exemple. Le seul point qui, à mon avis, serait... qui resterait, ce serait que même si les États-Unis reconnaissaient l'annexion de la Crimée par l'Ukraine, il est probable que les Européens ne le feraient pas. Et il est même probable que d'autres pays, comme par exemple la Chine, qui ne l'a jamais reconnue, ne le reconnaîtraient pas non plus parce que, malgré tout, l'intangibilité des frontières, ça reste quand même quelque chose d'important.
Sur le plan stratégique aussi, cette fois, pour l'Ukraine, ça représenterait quoi de cette reconnaissance américaine de l'annexion de la Crimée par la Russie.
En fait, il est très probable que, quand bien même Donald Trump dise le contraire, si jamais les Américains reconnaissent la souveraineté russe sur la Crimée, il est probable qu'ils pousseraient les Ukrainiens à plus ou moins l'accepter. Alors, donc, ce serait peut-être pas l'inscrire. Enfin, déjà, ce serait illégal pour les Ukrainiens d'inscrire la souveraineté russe sur la Crimée.
Contraire à leur constitution.
Voilà, effectivement, comme la constitution de tout État. Hein, je veux dire, la France ne pourrait pas non plus reconnaître l'annexion de l'Alsace-Lorraine, par exemple. Mais du coup, donc, effectivement, ce serait un coup quand même extrêmement sévère porté à la légitime demande de l'Ukraine de récupérer ses territoires un jour. Je pense que c'est ça qui les fait réagir. Cette reconnaissance déjurée, elle est clairement exclue par l'Ukraine, mais quand bien même ils ne le reconnaîtraient pas eux-mêmes, ce serait juste de facto, on va dire. Le fait que les Américains le reconnaissent, ce serait, je pense, le dernier clou dans le cercueil pour les ambitions ukrainiennes de revenir à leur frontière de 91.
Alors malgré tout, cette idée quand même de céder du terrain pour avancer dans les négociations, bien, certains Ukrainiens y pensent de plus en plus. Je voudrais qu'on écoute le maire de Kiev, Vitali Klitschko, qui a récemment accordé un entretien à la BBC.
Il n'y a pas de solution pour l'instant. On parle beaucoup de solutions possibles et l'un des scénarios que vous évoquez serait de céder des territoires. Ce n'est pas juste, mais pour la paix, une paix temporaire, peut-être que cela pourrait être une solution temporaire.
Une solution temporaire, Ulrich Bouna, ça pourrait être quoi? Quel territoire est-ce que l'Ukraine pourrait envisager de céder?
En fait, je pense que Vitali Klitschko dit tout fort. Enfin, alors c'est une question de politique interne, mais il dit tout fort ce que beaucoup de gens disent en fait au sein des couloirs du pouvoir en Ukraine. Même Volodymyr Zelensky a ces derniers mois déjà dit qu'il faudrait peut-être reconnaître que les territoires occupés ne pourraient pas être récupérés tout de suite, mais qu'ils devraient être récupérés après des négociations. Donc finalement, c'est ça en fait qui se joue, c'est-à-dire qu'au-delà du statut juridique de la Crimée, qui est là, je pense, un vrai point de contention, pour le reste, ce serait effectivement pour les Ukrainiens à reconnaître que tous les territoires que la Russie occupe, donc à peu près 20% du territoire ukrainien, resteraient sous le contrôle de Moscou au jour du cessez-le-feu et que finalement leur statut serait à débattre. Je rajouterais juste un point par rapport à ça. Avant 2022, avant l'invasion pleine et entière de l'Ukraine par la Russie, il y avait déjà des discussions dans la société ukrainienne sur que faire, notamment du Donbass occupé, donc à l'époque un petit peu de l'oblast de Donetsk et beaucoup de l'oblast de Louhansk, parce que en fait, ces territoires sont dévastés économiquement, il n'y a plus grand monde qui y habite et ce sont des gens qui ont subi 10 ans de propagande russe. Donc il y avait une vraie question sur quel est le coût à récupérer en humain, matériel, financier, à récupérer ces territoires pour le reste de l'Ukraine. Donc, une partie de ces territoires, je pense que les Ukrainiens n'y renonceront jamais parce que c'est leur territoire, mais il y a aussi une réalité qui fait qu'ils comprennent très bien les Ukrainiens que ces territoires, si jamais ils les récupéraient, ce serait dans très longtemps et à un coût prohibitif.
Mais dans très longtemps, est-ce que c'est envisageable? Parce que par exemple, on voit que pour la Crimée, typiquement, ça n'a pas évolué dans le bon sens.
Oui, mais si vous voulez, si je devais faire un parallèle, je prendrais celui avec la Corée. C'est-à-dire que les Coréens du Nord n'ont jamais renoncé à la réunification avec le Sud en récupérant le Sud et vice-versa. Et donc finalement, on pourrait être dans une situation un peu pareille, c'est-à-dire que l'Ukraine ne reconnaîtrait jamais qu'elle a perdu ses territoires, parce que je pense que c'est une étape trop importante, au regard des destructions, des pertes humaines, etc. Mais en revanche, effectivement, de facto, les Ukrainiens pourraient sans doute accepter, notamment pour le Donbass, que ce territoire-là, ils ne le récupéreront peut-être pas de leur vivant.
Clotilde Dumais.
La suite de ce décryptage sur l'état des négociations pour une trêve entre l'Ukraine et la Russie, toujours avec Ulrich Bouna, analyste géopolitique spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est. Alors les États-Unis prévoient aussi de sceller un accord sur les minerais ukrainiens. On apprend qu'il pourrait être signé dès aujourd'hui, dès ce soir. La ministre ukrainienne de l'économie est a priori attendue à Washington. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'avancée de ce dossier? On sait qu'il y a eu des modifications apportées par Kiev, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui l'Ukraine sort gagnante de cet accord, sans compliquer.
Elle ne sort pas trop perdante, a priori, pas autant qu'on aurait pu le craindre. Effectivement, il y a eu différentes moutures de cet accord. Les premières versions proposées par l'administration Trump étaient, je pense qu'on peut le dire, de l'extorsion. Il semblerait que la dernière version de l'accord, alors je ne l'ai pas eu sous les yeux, mais les fuites qu'il y en a eu, notamment dans le Wall Street Journal, semblent parler d'un accord un peu plus équilibré, où effectivement, ce serait essentiellement des investissements sur l'avenir, c'est-à-dire que l'objectif initial de Donald Trump de se rembourser d'une somme qu'il estime à 500, 300, 150 milliards, on ne sait jamais vraiment. Mais donc, en fait, finalement, ce serait surtout, l'idée ne serait plus de se rembourser, entre guillemets, sur le dos de l'Ukraine, mais ce serait d'investir dans les futurs minerais de l'Ukraine, etc. Donc, et à parité. Il y avait aussi une question de qui serait responsable du fonds d'investissement. Là, a priori, ce sera à parité. Donc, c'est moins pire pour les Ukrainiens. En revanche, il semblerait quand même que la partie garantie de sécurité, qui est la contrepartie qu'espéraient les Ukrainiens, il n'y en aurait pas. Alors,
Reste assez vague, en tout cas, côté Washington.
C'est ça.
Quoi.
C'est ça. En tous les cas, en citant cet article, la réponse de la diplomatie ukrainienne, c'était no comment. Ce qui laisserait supposer qu'effectivement, il n'y ait pas de garantie de sécurité. Et ça rentrerait d'ailleurs, je dirais, dans les discours officiels des États-Unis qui ont toujours dit que s'il fallait des garanties de sécurité à l'Ukraine, ce ne serait pas aux États-Unis de les fournir.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils s'opposent a priori à une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Les Européens, eux, ont apporté une sorte de réponse justement à toutes ces propositions, la récente américaine, et sur ces garanties de sécurité, eux, ils veulent vraiment que ce soit inscrit. Mais là aussi, Ulrich Bouna, on a l'impression que côté européen, hein, c'est encore un peu vague l'organisation de cette garantie de sécurité.
Oui, complètement. Pour les Américains, effectivement, l'idée, c'est vraiment que les Européens se débrouillent par eux-mêmes. Pour les Européens, il y a une double problématique. La première, c'est de se dire qu'on a quand même besoin du soutien américain pour de la logistique, pour du renseignement, pour être sûr que si jamais on se fait attaquer, les Américains seront là pour nous soutenir. Premier point. Et deuxième point, c'est effectivement quelle forme de garantie de sécurité fournir à l'Ukraine. Il y a certains pays, dont la France, qui poussent pour envoyer des troupes sur place. Alors, pas en première ligne, peut-être plus en arrière, mais véritablement avoir là, des hommes sur le terrain. Les Britanniques seraient plutôt sur une idée d'avoir une no-fly zone, donc avec des avions de chasse qui garantissent, on va dire, la sécurité de l'espace aérien sur l'ouest de l'Ukraine. Mais on voit bien que l'une comme l'autre, en fait, ce ne serait pas les Européens à 27, ce serait quelques pays volontaires, et il semblerait que les volontaires ne soient pas très nombreux, et que finalement, la première des solutions qui soit poussée en termes de garantie de sécurité, ce serait surtout de renforcer l'armée ukrainienne pour qu'elle puisse se défendre un maximum par elle-même.
Oui, parce que la ligne rouge, a priori, quand même, l'une des lignes rouges de Kiev, ça serait effectivement d'affaiblir l'armée, qu'on lui demande d'affaiblir son armée. Là, a priori, c'est impossible pour l'Ukraine.
Tout à fait, effectivement, il est très clair. Enfin, les Ukrainiens ont parfaitement conscience que s'ils renoncent, comme le demande Moscou, et qu'ils basculent sur un État neutre sans armée, ce serait la porte ouverte à une nouvelle invasion de Moscou. Il y a, comme on l'a entendu tout à l'heure dans vos interviews, il n'y a aucune confiance dans le Kremlin. Et donc, effectivement, il est très clair pour les Ukrainiens que renoncer à une armée, c'est renoncer à pouvoir se défendre le cas échéant. Et pour les Européens, renoncer à une armée ukrainienne, c'est potentiellement devoir intervenir si un jour la Russie reprend son offensive.
Mais pour revenir à ce qu'on se disait au début, Ulrich Bouna, voilà, sur cette semaine qui pourrait être effectivement cruciale dans les négociations, quand on voit qu'un accord sur les minerais pourrait être conclu aujourd'hui, est-ce que justement c'est peut-être les prémices de potentielles annonces qui pourraient suivre dans les jours à venir ?
C'est très compliqué à dire, très honnêtement, parce que Donald Trump est très imprévisible. Je pense qu'il y a deux éléments à suivre pour répondre. Le premier, ça va être de voir, parce que finalement, pour pousser la Russie à venir s'installer à la table des négociations...
Qu'est-ce qui va faire que la Russie va s'y installer, justement,
voilà,
à cette table des négociations ?
Donc, pour le coup, beaucoup se joue, en fait, à Washington. Et donc, effectivement, on voit bien que la stratégie de la carotte n'a pas vraiment fonctionné. Hein, Steve Witkoff s'est un petit peu aligné sur les demandes de Moscou, ça n'a pas donné grand-chose. Reste donc le bâton. Donald Trump en a parlé, remettre des sanctions, notamment secondaires.
Emmanuel Macron a dit que la pression allait s'accroître dans les prochains jours sur Moscou.
Exactement, donc après à voir.
Que qu'est-ce que ça peut être pour l'instant c'est...
Alors, côté européen, je pense qu'on a à peu près au maximum de ce qu'on peut faire à 27. En revanche, côté américain, il reste quand même de la marge, hein, des sanctions secondaires, notamment sur le pétrole. C'est-à-dire imposer des sanctions à toutes les entreprises dans le monde qui achètent du pétrole russe, ça pourrait faire très mal aux Russes, et les Russes en ont conscience. Donc effectivement, mais est-ce que Donald Trump le fera ? Ça, c'est une vraie question. Je suis incapable de vous le dire. Premier point. Et deuxième point, en fait, il y a quand même un risque, surtout si les choses s'enlisent, que finalement Donald Trump se dise « ma foi, j'ai récupéré un accord sur les minerais, ce qui me permet de me rembourser », entre guillemets, en tout cas c'est comme ça qu'il le présentera auprès de sa population, en tout cas de ses soutiens. Et donc finalement, je me suis remboursé et maintenant débrouillez-vous entre vous. Donc quand bien même il y aura un accord sur les minerais, il est possible que les Américains décident de sortir s'ils voient que ça n'avance pas.
En tout cas, effectivement, pendant ce temps, la Russie, pour terminer, elle ne semble pas vraiment défavorisée dans tout ce qu'on vient d'évoquer là et continue la guerre, a priori. On ne sait pas ce qui pourrait l'arrêter aujourd'hui.
Oui, effectivement, on voit bien qu'au contraire, elle a tout intérêt à faire durer des négociations. Il faut bien comprendre que de son point de vue, Vladimir Poutine, pour lui, la guerre ne se passe pas trop mal au final. Alors, il n'avance pas très vite, mais il avance quand même malgré tout. Ça lui coûte très cher, mais il avance. Et donc, effectivement, il se dit que plus il attend, et plus la situation sera meilleure pour lui, avec la seule limite qui est que l'un de ses objectifs, c'est quand même de rétablir la relation avec les États-Unis.
Merci beaucoup Ulric Bouna. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est, chercheur associé chez Eurocréative et auteur de ce livre que je rappelle, La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective, c'est aux éditions du Cygne. Merci à Fabrice Viollet qui était à la réalisation. Merci à la cellule invitée et puis au service documentation et à la sonothèque de RFI. Bonne soirée.